Aucun homme ne naît instruit, et ainsi nous avons tous besoin d'être guidés et soutenus par ceux qui sont nés avant nous. Un homme parle ainsi, un homme que vous connaissez bien, Nicole Giroux, sur lequel vous avez travaillé pendant des années, qui est-ce?
Bartolomé de las Casas. C'est un Espagnol qui est né au XVIe siècle et qui était le fils d'un colon qui est parti avec Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique. Il est parti d'abord comme un bon Espagnol pour s'occuper d'une terre, et puis au fil des expériences, il s'est converti pour devenir en fait le premier défenseur de la dignité des Indiens.
Qu'est-ce qui le frappait, cet homme?
Je crois que ce qui l'a frappé, c'est de découvrir que ces Indiens, qui vivaient de façon tellement différente des Espagnols, avaient les mêmes droits et en fait que personne ne s'en était rendu compte. On les considérait un petit peu comme des sous-hommes et lui s'est rendu compte en fait qu'ils avaient exactement la même dignité, donc exactement les mêmes droits que les Espagnols.
Et il me semble que son chemin n'a pas été simple.
Non, il n'a pas été simple. Il a passé par beaucoup d'étapes assez contradictoires même. Donc cette première étape où il était un colon,
Un homme de son siècle.
tout à fait, et un homme qui travaillait comme les autres Espagnols, donc qui avait des Indiens sous ses ordres, qu'il a utilisés pour faire du profit.
Même lui a été esclavagiste.
Oui, dans la première période de sa vie aux Indes, exactement comme tous les Espagnols qui sont partis. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faisait quand même attention de ne pas trop maltraiter ces Indiens, mais il les exploitait au même titre que les autres colons. Il a été ordonné prêtre aux Indes, c'est le premier prêtre ordonné aux Indes.
Ça correspond à quoi aujourd'hui?
C'est l'Amérique latine, c'est-à-dire du Mexique jusqu'au fond de l'Argentine. Quand il est arrivé, on connaissait la région, les îles des Caraïbes et le début du Mexique, le Guatemala, la région qui fait un peu le golfe du Mexique. Le reste va être découvert un peu plus tard.
Donc vous disiez Las Casas, premier prêtre dans cette région du Mexique.
Oui, et comme prêtre, ce que faisaient tous les Espagnols prêtres, c'est qu'ils étaient automatiquement aumôniers militaires. Dire qu'il va accompagner des Espagnols qui font de la conquête. Et il va se rendre dans un village où il est remarquablement bien accueilli, avec tous les Espagnols qui l'accompagnent, les gens les reçoivent, leur donnent à manger, etc. Et puis, sans raison apparente, un Espagnol va sortir son épée et va se mettre à tuer quelqu'un. Et par effet de groupe, tous les Espagnols vont se mettre à s'armer et à tuer tout le village. Et Las Casas ne peut protéger personne, ni les femmes, ni les enfants, tout le monde est tué.
C'est sa première expérience de conversion.
C'est le premier déclic. Il s'est rendu compte qu'il ne peut même pas défendre les innocents dans sa position. Première étape. Deuxième étape, il prépare le serment de la Pentecôte. Il tombe sur un passage de l'Ancien Testament qui dit que le fait d'offrir un bien mal acquis est quelque chose de mauvais et que Dieu ne peut pas accepter cette offrande. Et en lisant ça, il va s'appliquer ce passage à lui-même, à ce qu'il fait, et se rendre compte qu'en utilisant les Indiens, il est en train d'offrir à Dieu quelque chose qui est mal acquis.
Donc un homme qui réfléchit, un homme qui a le cœur ouvert.
C'est même assez impressionnant chez lui, parce qu'au fond, comme Espagnol, il n'aurait jamais dû penser ça. Il se convertit parce que il se laisse éclairer par la parole de Dieu et par l'Esprit Saint sans aucun doute.
Troisième étape.
Troisième étape, il va écouter le sermon d'un dominicain qui s'appelle Montesinos et qui dit « Je suis la voix qui crie dans le désert », donc il reprend les paroles de Jean-Baptiste.
Ne sont-ils pas des hommes?
Ne sont-ils pas des
Ne
hommes?
sont-ils pas des êtres humains?
Exactement. Et Las Casas va comprendre qu'effectivement, ce sont des êtres humains. Et donc, après ces trois étapes, il va libérer les esclaves qu'il avait chez lui.
Et là commence toute l'aventure.
Et là, ça commence,
Alors
oui.
Nicole Giroux, pourquoi Las Casas? Pourquoi vous êtes intéressée à cet homme? Il y a eu des résonances avec vous?
Plusieurs, sans aucun doute. Une chose qui m'a toujours frappée chez lui, c'est le sens de la vérité qu'il habitait. C'est-à-dire, quand il découvre quelque chose qu'il considère comme vrai, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Mais plus rien.
Une certitude.
Oui, une force qui est extraordinaire, inexplicable. Parce que pour pouvoir défendre les Indiens, il va devoir affronter l'Église, l'État espagnol qui est un État extrêmement riche, et tous ses contemporains. Et il est tellement certain que ce qu'il dit est dans le sens de ce que Dieu veut, qu'il va poursuivre toute sa vie jusqu'à sa mort. Et c'est quelque chose qui est très frappant de voir cette force et cette capacité
Cette
cette
détermination,
détermination pour défendre les
ça vous
Indiens.
touche.
Oui, j'espère qu'une
Est-ce que
fois j'en
ça
aurai
vous
autant.
a touché aussi quand vous êtes allé au Mexique?
Oui, certainement. Ce qui est frappant, c'est de se rendre compte que son message vaut aujourd'hui de la même manière qu'il y a 500 ans. C'est-à-dire que quand on va dans des régions où les Indiens vivent encore en communauté, par exemple dans le Chiapas, c'est la région la plus au sud du Mexique. C'est une région qui est dans la jungle, où vivent en fait une grande quantité d'Indiens, qui vivent encore de façon très rurale, très rustique.
Vous les avez rencontrés?
Plusieurs fois, oui. Disons que c'est des rencontres qui sont un petit peu médiatisées parce qu'ils parlent des langues encore indiennes. Mais ce sont des gens qui vivent encore selon leur tradition ancestrale jusqu'au début de la révolution zapatiste, donc en 2002, me semble-t-il. Jusqu'à ce moment-là, ils n'étaient pas reconnus comme existants par l'État mexicain.
Ça veut dire que tout le travail qu'a fait Las Casas n'a pas abouti?
Pas directement. Je pense qu'il aboutit dans le sens où on ne dirait plus que ce ne sont pas des hommes. Ils n'ont pas la même dignité. Maintenant, c'est un problème qui est devenu politique au Mexique, parce que après la colonisation, il y a eu des périodes de dictature et des périodes d'essai de démocratie, et ce sont toujours les descendants des Espagnols qui ont voix au chapitre, parce qu'ils parlent espagnol, premièrement, et puis parce qu'ils ont l'habitude, en fait, de gérer ce qui est politique et des questions de pouvoir et économique.
Quelle est la place du christianisme aujourd'hui au Mexique?
Je pense que la plupart des Mexicains sont catholiques. Disons, l'Église est un petit peu divisée, comme dans beaucoup de parties de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que d'un côté, on a une partie de l'Église qui est vraiment auprès des pauvres, auprès des Indiens. On a beaucoup de Dominicains, en fait, qui sont dans cette région du Chiapas.
Je crois que vous en avez rencontré un.
Oui, c'est un Dominicain qui a été nommé comme coadjuteur à Monseigneur Samuel Ruiz, qui est un évêque qui a fait beaucoup, beaucoup pour les Indiens, qui a beaucoup milité pour qu'ils puissent apprendre à lire l'espagnol, pour qu'ils puissent apprendre à parler en espagnol, et donc pour qu'ils puissent avoir une reconnaissance civile au Mexique, ce qui n'était pas leur cas. Et c'est un petit peu tout le mouvement zapatiste qui va reprendre en fait ces exigences.
Vous avez senti l'esprit de Las Casas?
Ah, certainement. Il y a même une peinture qui est assez extraordinaire, qui est au Chiapas, dans l'évêché, où on voit en fait Las Casas, c'est une peinture qui représente Las Casas, qui donne la main à Monseigneur Ruiz. Et c'est assez frappant parce qu'on voit que même physiquement, ils ont des traits semblables. Mais je pense que ce qui est le plus touchant dans ces deux hommes, c'est certainement leur miséricorde. Ce sens, en fait, que chaque personne a la même valeur, que chaque personne, qu'elle soit indienne ou pas, qu'elle soit descendante d'Indien ou d'Espagnol, ou qu'elle soit un mélange des deux, chaque personne est tout à fait digne et a droit à une reconnaissance. Une reconnaissance ecclésiale, sans doute, mais une reconnaissance civile aussi.
Est-ce qu'il est à l'origine des droits de l'homme, Las Casas?
Moi, je dirais oui. On pourrait le mettre facilement comme grand-père des droits de l'homme, parce que quand il est rentré en Espagne, après sa propre conversion, il est rentré en Espagne et il va militer une grande partie de sa vie pour les droits. Et donc, pour faire reconnaître en Espagne, qui est la grande puissance à ce moment-là, faire reconnaître à l'Espagne des droits pour les Indiens. Ça veut dire que les Espagnols devaient accepter l'idée qu'ils n'étaient pas tout-puissants et qu'ils n'étaient pas tout-puissants sur cette terre-là.
Benoît XVI, dans quelques jours, se rend en Amérique latine. Est-ce qu'il y a quelque chose du message de Las Casas qui pourrait être d'actualité pour Benoît XVI?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Ce qui me semble le plus important, c'est de dire que chaque peuple a droit à une forme d'autonomie. Et si je prends par exemple Las Casas, quand il est arrivé chez les Indios, il a dû d'abord prendre un temps qui lui a pris à peu près 10 ans quand même, pour comprendre la culture, pour comprendre les langues, pour comprendre la façon de penser des Indios avant de pouvoir les évangéliser de façon pacifique. Et il n'y a pas tellement d'autres moyens si on veut vraiment arriver à une évangélisation qui soit faite en profondeur. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut parler aux Indiens ou aux gens d'Amérique latine, il faut faire le même chemin, c'est-à-dire comprendre comment ils fonctionnent aujourd'hui dans leur culture, comprendre quelles sont leurs préoccupations vitales, existentielles, pour pouvoir répondre à ces questions-là avec l'Évangile.
Aujourd'hui, Bartolomé de Las Casas retournerait au Mexique. Quel serait son discours?
Je pense qu'il aurait un discours assez vif s'il devait parler aujourd'hui. D'abord, certainement, il pousserait un cri retentissant contre les injustices, qui sont encore énormes. Du point de vue économique, on voit assez facilement parce qu'il y a vraiment des régions très pauvres, mais je pense aussi du point de vue du droit. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de droit et c'est pas juste. Je pense que c'est quelque chose contre lequel il se lancerait immédiatement pour demander effectivement une reconnaissance des droits de chaque homme. Dans la phrase que vous avez citée au début, c'est aussi que chaque homme a des droits, il n'y a qu'une sorte de droit, c'est les mêmes droits pour tous. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si on regarde dans notre monde, on voit bien que tous les hommes n'ont pas les mêmes droits. Et Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fort chez Las Casas, c'est que chaque être humain a exactement droit aux mêmes choses, si on veut être vraiment évangélique. Et pour lui, c'était même envisageable, ça supposait qu'on risque sa vie pour pouvoir le dire.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Que je pense que c'est un homme extraordinaire. Ce feu qu'il habitait, qui pour moi est vraiment à l'image aussi du feu dominicain, d'un appel à la vérité, et de cette force qu'il a eue pour proclamer ça contre tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie.
Il a vécu 91 ans.
Oui. Donc c'est vraiment un exemple aussi d'une persévérance qui est remarquable.